La parole de Dieu se trouve Jean chapitre 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus de vous s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Prions pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, qui sera prêchée par l'évêque. Prions pour que nous puissions recevoir la parole, pour la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Prions et prions aussi pour l'évêque. Dieu le Père, Dieu nous a commandé le jour saint aujourd'hui et nous y avons obéi. Que tous les membres de l'Église Sonnac qui assistent à ce culte soient tous dans tes mains, que leur cœur blessé soit guéri et que leurs blessures soient pansées et qu'elles reçoivent ta parole pour que leurs âmes prospèrent. Où la lèvre de ton serviteur parle, nous, je prie au nom de Jésus. Les fleuves d'eau vive, Dieu est le Père de la vie, il envoya son Fils afin de donner la vie à l'humanité. La venue du Fils étant celle de la parole, c'est la parole de la vie éternelle. La parole vint dans la chair, à savoir le sang. Le sang contenant la vie, il expie le péché. Le Saint-Esprit est donné à celui qui est sauvé du péché. Jésus-Christ, après sa glorification, le demande auprès de Dieu le Père. Le Saint-Esprit étant le Saint-Esprit de la vie, il procède de Dieu le Père. Ainsi, Dieu le Père et l'Esprit du Saint font un par la justice, et à cause de cette foi, l'Esprit devint le lien de la vie. Puisque le Saint-Esprit pénètre dans le ventre du croyant, à savoir son âme, il est dit devenir des fleuves d'eau vive. Il faut donc expérimenter le baptême après une repentance très amère. Recevoir le Saint-Esprit, c'est donc ressemblable au fleuve d'eau vive. Il faut participer au Saint-Esprit comme si on s'enfonçait dans les eaux d'un fleuve et il faut pouvoir les sentir couler rapidement dans l'âme pour être un homme de Jésus-Christ. L'Église chrétienne est la foi de l'expérience. L'expérience se fait par le Saint-Esprit et doit se prolonger éternellement. Lorsque la parole de Dieu, le sang précieux de Jésus-Christ et la vie viennent par le Saint-Esprit, on dit que c'est la vérité. La vérité et les fleuves d'eau vive doivent couler en soi pour être un croyant authentique qui porte les fruits du Saint-Esprit, ceux de l'amour parfait. Amen. Dieu est le Père de la vie. Le Père signifie la source. Lorsqu'on parle de la vie, on n'est pas encore clair. Là, de Silver, nous comprenions clairement là-dessus, parce que sinon, notre foi sera très faible, ainsi que notre espérance. La vie de la chair et la respiration que nous faisons avec le nez, la respiration, c'est pushké. Même les insectes, même les animaux, respirent avec leur nez, et parce qu'ils ont la vie biologique. Même les arbres et les plantes, eux aussi, ils respirent. Pendant que la chair est en vie, l'aspiration la soutienne. Alors, certains vivent pendant 30 ans, certains autres pendant 50 ans, certains autres pendant 90 ans. Alors, pendant ce temps-là, on utilise de manière temporaire la vie biologique qui est soutenue par la respiration de la chair. Mais en fait, la Bible parle de la vie de l'esprit. On parle de la vie que possède l'esprit. Jésus a dit, Jean chapitre 6, verset 13, « Ce qui vivifie, c'est l'esprit. La chair ne sert de rien. » Voilà donc la respiration charnelle se fait même par les animaux. Mais il ne s'agit pas de cela lorsqu'on parle de la vie de l'esprit. L'esprit, lorsque je parle de l'esprit ou lorsque je parle de l'âme, la personnalité a été créée avec la chair, tandis que l'esprit est venu des cieux. Et alors l'esprit a été donc créé dans les cieux. Ensuite, cet esprit nous a été donné par Dieu le Père. Voilà donc les animaux n'ont pas l'esprit. Lorsque les animaux naissent, ils possèdent seulement la vie biologique qui est maintenue par la respiration. En revanche, l'homme possède l'esprit. Cet esprit est mort à cause du péché. Mais le Christ est venu dans le monde pour faire vivre l'esprit en versant son sang. Dans le sang des animaux, il y a la vie des animaux. Et dans le sang, il y a la vie de Dieu, la vie de Dieu dans le sang de Dieu. Donc, je ne parle pas maintenant de la vie des animaux, je ne parle pas maintenant de la respiration des animaux, je parle maintenant de la vie de Dieu. Seuls les chrétiens ont retrouvé la vie. Après Adam, tous les esprits ont obtenu la vie. Mais au commencement, il y a eu la désobéissance de la part des hommes, d'où la mort de l'esprit. Alors, pour faire vivre cet esprit mort, Jésus-Christ est venu et il a versé son sang à notre place. Voilà, c'est ça, faire vivre l'esprit. Jésus nous a dit, il faut que vous viviez de mon sang pour avoir la vie. Jean 6, verset 53. Il faut que vous mangiez de ma chair pour avoir la vie éternelle. Voilà donc, par Jésus-Christ, la parole de Dieu nous a été transmise. Et il faut que nous donc mangions et vivions cette parole-là pour que nos esprits maintiennent la vie obtenue pour l'éternité. Nos âmes ont été, nos esprits ont été rendus à la vie par le sang de Jésus, mais ces esprits rendus à la vie doivent se maintenir. Pour cela, il faut la parole de Dieu. Alors, par le sang de Jésus-Christ, nous avons retrouvé la vie. Et il ne faut pas que nous comprenions cela de manière abstraite ni de manière conceptuelle. Il faut que nous fassions l'expérience de cela. Nos esprits ont été rendus à la vie de manière parfaite. C'est pourquoi nous nous faisons baptiser, nous nous repentons et nous recevons le Saint-Esprit. Alors, si nos esprits étaient morts, ils n'ont pas reçu la parole, le Saint-Esprit, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de recevoir le Saint-Esprit. Alors, ceux dont l'Esprit a été rendu à la vie peuvent recevoir le Saint-Esprit. Alors, c'est nous qui avons donc reçu le Saint-Esprit. Alors, nous sommes chrétiens saints. Dans le monde, il y a beaucoup de religions. Et alors, ceux qui possèdent la religion sont appelés religieux. Mais nous, par le sang de Dieu, nos esprits ont été rendus à la vie. Et par ceux qui ont été rendus à la vie, le Saint-Esprit est venu. Et nous avons donc reçu le Saint-Esprit. Il faut que vous connaissiez la valeur de votre existence. Nous servons Dieu. Nous croyons au Dieu qui est le Dieu de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, c'est le Dieu de la Trinité. Alors, comment nous nous approchons de ce Dieu? Il y a une méthode que nous appliquons lorsque nous voulons nous approcher de Dieu. Vous avez mené la vie de la foi pendant longtemps et vous avez prié pendant longtemps, mais vous êtes encore dans l'obscurité et encore dans la stupidité. C'est pourquoi vous ne pouvez même pas remédier à vos problèmes. Donc, écoutez bien le sermon d'aujourd'hui. Nous nous appelons Dieu Père. Personne n'avait Dieu le Père, c'est ce qui est dans la Bible. Personne n'avait Dieu le Père. Alors, ce Dieu nous a donné le sang, le Saint-Esprit. C'est ce que nous expérimentons. Il est invisible, mais il existe. Puisqu'il existe, il nous a envoyé son sang et le Saint-Esprit. Alors, nous avons vu son sang et nous avons accueilli le Saint-Esprit envoyé par lui. Ainsi, même si Dieu est invisible, il ne faut pas penser à tort que Dieu n'existe pas. Il est vivant, il existe réellement depuis l'éternité, il existe par lui-même. Alors, nous appelons donc Dieu Père. Lorsque nous prions, nous l'appelons notre Père qui est aux cieux. Alors, qui est le Père? Nous demandons à Dieu le Père de nous donner telle ou telle chose. Alors, ce n'est pas un péché de lui demander de nous donner telle ou telle chose. Mais la Bible dit, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous avez demandé parce que vous avez mal demandé. Vous avez mal demandé. Nous disons, Seigneur, Seigneur, Père, Père. C'est ainsi que nous l'appelons de manière confuse. Mais ceux qui se sont convertis, ou nos petits-enfants, nous appellent mère ou père, ou grand-père. Et alors, ils peuvent nous demander comment je dois prier. Alors, vous leur dites, appelez le nom de Dieu comme vous voulez, comme tu veux. Mais quel est l'enseignement de la Bible en matière? Même si nous faisons des expériences, il y a un écart de temps. Nous avons écouté l'Évangile et nous sommes repentis et nous avons reçu le baptême. Ensuite, nous recevons le pardon de péché. Ensuite, nous recevons le don du Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi que toutes ces choses-là se font de manière ordonnée. Donc, notre Dieu ce n'est pas le Dieu de la confusion. Notre Dieu est le Dieu de l'ordre. C'est ce qui est enseigné dans la Bible. Notre Dieu, le Père.
Notre Dieu, le Père.
nous donne un emploi lorsqu'on était au chômage, il nous donne l'argent lorsqu'on est pauvre. Ce n'est pas le travail de Dieu. Notre Dieu, le Père, doit être servi. Jésus aussi a dit que Dieu le Père est celui qui doit être glorifié. C'est la raison pour laquelle il faut que nous donnions à Dieu tout ce que nous possédons pour le glorifier. Qui est Dieu le Père? C'est celui qui doit être servi. Il doit être servi. Alors, ici, donc, si nous ne le servons pas, nous sommes pécheurs. Alors, il ne s'agit pas de la qualité de la foi. Ce qui importe ici, c'est que nous devons le servir pour ne pas être pécheurs, parce que notre Dieu, le Père, est celui qui doit être servi. Est-ce que nous le servons bien et correctement? C'est la question qu'on doit se poser. Dans notre famille, par exemple, il y a le grand-père. Il est très faible parce qu'il est très âgé. Mais il est le plus haut dans la famille. C'est pourquoi les autres de la membre de famille l'honorent, le respectent, même s'il ne travaille pas, il est servi par les autres membres de la famille. De la même manière, Dieu le Père doit être servi par toute l'humanité, parce que Dieu le Père est celui qui doit être servi. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi? Et est-ce que Dieu existe ou pas? Et alors, posséder la foi, c'est avoir le Dieu que nous servons. Donc nous devons servir Dieu le Père. Le culte aussi, c'est servir Dieu. Il faut le louer, il faut le glorifier, c'est le servir. Lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, nous le faisons pour le servir. Mais ceux qui le servent doivent préparer les offrandes en avance. Lorsque vous donnez les offrandes, vous devez les préparer en avance pour que ces offrandes deviennent de vraies offrandes et pour que vous donniez les offrandes non pas par contrainte. Donc, il ne faut pas que vous soyez dans l'embarras lorsqu'on vous demande de donner les offrandes à Dieu dans l'Église. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, il faut que les offrandes soient préparées en avance pour qu'elles soient vraies. Parce que Dieu recherche ceux qui donnent les offrandes d'une telle manière. Alors, Dieu aime ceux qui donnent les offrandes préparées en avance. Donc, donner les offrandes, c'est aussi servir Dieu. Nous avons donc préparé les offrandes en avance pour les donner à Dieu, mais je ne les donnerai pas ces offrandes parce que je suis mécontent du pasteur, je suis mécontent de l'Église. Mais il faut que nous servions Dieu. Alors vous dites, parce que je suis mécontent de tel ou tel homme, je ne veux pas donner les offrandes à Dieu. Mais tout ce que vous devez faire, c'est servir Dieu. Alors, c'est pourquoi vous avez préparé les souffrances, les offrandes en avance. Mais vous ne voulez pas donner les offrandes à Dieu préparées en avance parce que vous êtes mécontent d'un tel ou tel homme. C'est ainsi que vous vous moquez de Dieu. Par exemple, alors j'ai préparé la dîme pour la donner. Mais je suis mécontent de l'Église, alors je ne donnerai pas cette dîme à cette Église. Et je la donnerai à une Église qui est à la campagne. Mais ce n'est pas correct du tout. Servir Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, nous venons au devant de Dieu pour rendre un culte à Dieu parce que nous devons le servir. Et à ce moment-là, nous devons préparer les offrandes en avance pour le servir. C'est tout ce que nous devons faire. C'est notre obligation. Alors nous devons le servir de toute notre volonté, de tout notre cœur, de toute notre nature, de toute notre force et de toute notre vie. Il faut l'aimer d'une telle manière. Mais vous, en fait, vous priez en étant assis et puis vous louez, vous chantez. Mais vous chantez à qui? Vous chantez pour qui? Vous devez servir Dieu, n'est-ce pas? Mais vous vous dites, ah, j'aime pas telle ou telle personne, j'aime pas tel ou tel pasteur, alors je ne peux pas donner ces offrandes à l'église. Je vais utiliser cet argent-là pour aider les pauvres. Mais vous savez, personne ne peut pas toucher le dixième de notre revenu. Avec le reste de notre revenu, nous pouvons faire n'importe quoi, mais la dîme, qui est le dixième de notre revenu, appartient à Dieu. Et si vous avez fixé le montant des offrandes, et alors ce montant-là, cet argent-là appartient à Dieu. Si vous avez décidé de donner tel ou tel montant des offrandes, vous ne pouvez pas changer ce montant-là parce que lorsque vous avez pris cette décision, cet argent appartient à Dieu. Si vous avez fait un vœu, il faut l'accomplir le plus vite possible. Et sinon, ça devient un péché contre Dieu. Alors, vous avez préparé les offrandes dont le montant n'est pas très important. Et en plus, vous vous dites, est-ce que je dois donner ou pas à Dieu? Et en fonction de votre humeur. Et lorsque Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils unique à la montagne où je t'indiquerai. Alors Abraham, est-ce qu'Abraham en a parlé à sa femme? Alors si Abraham en avait parlé à sa femme, celle-ci aurait considéré son mari comme fou. Mais Abraham n'a pas discuté avec sa femme avant de donner son fils unique à Dieu. De la même manière, nous devons servir notre Dieu le Père de tout notre cœur. Il faut que nos familles servent Dieu, il faut que nos enfants le servent. Il ne faut pas menacer Dieu, il ne faut pas se moquer de lui. Et il ne faut pas hésiter à donner nos offrandes à Dieu, préparer en avance devant Dieu. Si nous avons décidé de servir Dieu, il faut que nous le fassions de notre force, que ce soit la durée de notre vie de la foi. Si vous êtes venu à l'église, si vous êtes venu au devant de Dieu, il faut le servir. Il faut le servir. Jésus nous a dit, je suis venu non pas pour être servi, mais pour vous servir, pour vous donner ma vie en rançon. Jésus n'est pas celui qui est servi. Seul Dieu le Père est celui qui doit être servi. Cela est pour laquelle nous demandons à Dieu le Père de nous donner telle ou telle chose. Mais ce n'est pas correct. Il est dit dans Matthieu 6, il ne faut pas multiplier nos paroles devant Dieu comme les païens, parce que les païens, eux, en fait, ils multiplient les mêmes paroles et ils demandent de leur donner telle ou telle chose. Mais Jésus nous a dit, il ne faut pas agir comme les païens. Alors Dieu le Père sait ce dont nous avons besoin. Même si nous l'envoie demander nos besoins, Dieu le Père sait notre besoin. C'est pourquoi il a fait en sorte que son Fils vienne dans le monde. C'est pourquoi il est appelé le Christ. Le Christ signifie « loin », comme le pasteur, et « oint » comme les diacres sont « oint ». Et Jésus-Christ a été « oint » par Dieu. Cela, « loin » signifie « l'envoyer ». Lorsque Dieu a envoyé les prophètes, ces prophètes ont été « oint ». Les grands sacrificateurs ont été « oint ». Cela signifie qu'ils ont été « envoyés ». Celui qui était dans le sein de Dieu le Père, nous a été envoyé. Alors c'est pourquoi il est appelé le Christ. Alors il nous a été envoyé pour nous pouvoir aider. Celui qui nous aide est celui qui est sorti du sein de Dieu. Il est aussi Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est aussi Dieu. Il est venu au monde pour nous aider. Il aide les pauvres. Il aide les malades aussi. Même s'il est riche, il a été appauvri pour nous enrichir par sa pauvreté. Il est venu pour nous aider. Il faut donc que nous croyions que le Fils, Jésus est le Fils de Dieu, et il faut que nous croyions que Jésus est l'envoyé de Dieu le Père. Pour cela, il faut que nous recevions, il faut que nous le servions de manière inconditionnelle, et il faut que nous croyions que le Fils de Dieu est le Christ. Ça doit être l'objet de notre foi. Alors, c'est pas la peine de dire « je crois à Dieu le Père » et nous devons le servir de notre vie. C'est pas la peine de dire « je crois à Dieu le Père ». Si nous ne le servons pas, nous sommes pécheurs. Une famille qui ne sert pas à Dieu est une famille pécheresse. Et l'enfant, les descendants qui ne servent pas à Dieu sont des descendants pécheurs. Les pécheurs n'ont aucun rapport avec Dieu le Père. Alors Dieu sait ce dont nous avons besoin, et alors il nous a envoyé son Fils pour que ce dernier puisse nous aider. Nous pouvons donc être aidés de Jésus et nous pouvons recevoir sa grâce. Alors si nous avons besoin d'une aide, il faut nous adresser à Jésus et il faut lui dire « aide-moi Jésus, aide-moi Jésus, moi je souffre énormément, aide-moi, viens au secours ». De moi, il faut ainsi que nous devons dépendre de lui et lui demander de nous aider. Mais les gens d'aujourd'hui ne servent pas Dieu le Père et ils demandent seulement à Dieu le Père de leur donner des choses. Alors ils prient toute la nuit, ils jeûnent même, mais ils n'ont aucun rapport avec Dieu le Père parce que Dieu le Père est celui qui doit être glorifié. Il faut donc lui rendre gloire, il faut le servir d'abord. Lorsque j'ai commencé la vie de la foi, j'ai compris la vérité qui a été enseignée par Dieu le Père. À partir de ce moment-là, pendant 60 ans, je me suis appliqué à servir Dieu. Servir Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas donner tout ce que j'ai à Dieu. Même si je voudrais donner une certaine somme à Dieu le Père, je voudrais lui donner ce qui est pur. Pour donner donc à Dieu les offrandes dominicales, je les ai préparées avec joie et j'ai mis l'argent dans la Bible et je l'ai repassé même pour pouvoir donner à Dieu de manière pure. Je voudrais vraiment le servir de toute ma nature, et de tout mon cœur, de toute ma force. Alors, je ne voulais pas donner les offrandes à Dieu en étant dénué de ma volonté, de mon cœur. Je pense que Dieu a vu cette attitude avec joie, c'est pourquoi il m'utilise. Alors, une famille qui sert Dieu le Père, l'âme qui sert Dieu le Père peut être lui plaire. Alors, Dieu a envoyé le Christ au monde. Alors, nous pouvons être aidés par le Christ. Il ne faut pas penser à tort que c'est Jésus qui reçoit les offrandes. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, « Vous donnez les offrandes et cela signifie que vous accumulez votre trésor dans les cieux. » Alors, selon la Bible, il faut faire en sorte que ce qui appartient à Dieu soit dans son grenier, sinon vous êtes maudits. Alors, quelqu'un dit qu'il est difficile de croire en Jésus parce que pour pouvoir croire en Jésus, il faut donner tout ce que nous avons à lui. Mais Jésus ne nous a pas demandé de lui donner les offrandes. Jésus ne nous a pas demandé de le servir. Alors, Jésus ne vous force pas à lui donner l'argent. Vous n'avez pas été menacé d'une telle manière. Jésus est venu non pas être servi. Et c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de connaître le Dieu unique et celui qui a été envoyé par Dieu le Père, à savoir Jésus-Christ. Donc, il faut que nous connaissions Dieu le Père et son Fils pour avoir la vie éternelle. Mais si vous ne dépendez pas de Jésus, et vous dites, alors il faut que je prie toute la nuit, et je dois rendre le culte à lui, et je dois donner les offrandes, alors c'est difficile, c'est dur. C'est ainsi que vous êtes vraiment hypocrite et mais Jésus n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour vous servir. C'est le Christ. Et donc, il faut que nous recevions la grâce de Jésus-Christ. Et il faut donc lui dire, aide ma famille, aide mes enfants, aide-moi. C'est ainsi que nous devons lui demander son aide. Et pour cela, il faut recevoir sa grâce. Mais les gens méprisent Jésus qui a été envoyé pour nous aider. Et nous le méprisons et nous disons, je n'ai aucun rapport avec Jésus. Et on s'adresse à Dieu le Père directement en disant, aide-moi Dieu le Père, aide-moi Dieu le Père. C'est pourquoi on tombe dans une grande confusion. Donc comprenez bien la parole d'aujourd'hui. Répétez, Dieu le Père est celui qui doit être servi. Dieu le Père est celui qui doit être servi. Mon âme sert Dieu. Mon âme sert Dieu. Dieu le Père est celui qui doit être servi. Le Dieu qui est invisible, c'est pas la peine de le chercher. Ça et là, il faut que nous le servions tout simplement. Lorsque nous chantons, nous devons le faire de tout notre cœur, de toute notre force, de notre nature, de notre vie pour le servir. Et lorsque nous chantons, nous devons le faire pour le mieux servir et nous devons rendre le culte pour le mieux servir. Lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, il faut que nous le fassions pour mieux le servir. Seigneur Jésus, qui est le Christ. Jésus-Christ, aide-moi. Donne-moi ta grâce. Lorsque le pasteur vous bénit, il mentionne en premier que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors c'est ainsi que nous lui demandons son aide. Jésus-Christ a versé son sang pour nous faire sortir du péché, pour nous libérer du péché. Il nous a dit, vous serez affranchis du péché par la vérité. Cela signifie que nous avons été affranchis de la loi. Si, si nous ne sommes pas libérés de la loi peut nous jeter dans l'enfer parce que la loi nous juge. Mais c'est pas la peine d'entrer dans l'enfer sous la domination de la loi parce que nous avons été libérés de la loi. Toutes les offrandes et tous les ustensiles qui sont utilisés dans le sanctuaire sont purifiés par le versement du sang. Donc les offrandes, les ustensiles ont été purifiés par le sang des animaux à l'époque de l'Ancien Testament. Alors, en tant que pécheurs, nous ne pouvons pas le servir. Parce que Dieu ne reçoit pas les offrandes des pécheurs. Alors, Jésus nous a sanctifiés. Il faut que nous, c'est pourquoi nous pouvons le servir correctement. Alors, nous pouvons être sanctifiés par Jésus-Christ. Nous pouvons être sanctifiés par son sang précieux. C'est pourquoi nous devons donc recevoir sa grâce. Il faut demander son aide. Si vous êtes tombé malade, vous devez dire à Jésus, « Guéris-moi ». Alors, si vous demandez à Dieu le Père, « Guéris-moi », vous avez mal demandé parce que vous méprisez celui qui peut nous aider. Alors, vous méprisez celui qui est venu au monde pour nous aider. Alors, vous voulez vous adresser directement à Dieu le Père pour recevoir son aide, mais ce n'est pas correct. Alors, on ne peut pas abuser Dieu le Père. Il faut que nous servions Dieu le Père, tandis que nous devons être aidés de son Fils. Donc, le Fils n'est pas celui qui peut être, qui est servi. Le Fils est égal à Dieu le Père, mais il est venu en chair, en ayant une forme d'esclave, dans le but de nous servir. Donc, le Fils de Dieu doit servir nos familles. Il faut qu'il aide nous-mêmes. Il faut que nous soyons donc aidés de lui de manière continuelle. Et en tout temps, et il faut que nous soyons aidés de lui, et il faut que nous soyons soutenus par lui, quoi que nous fassions. Il faut que nous prions à lui pour pouvoir obtenir son aide. Jésus nous a dit, si vous priez en mon nom, Dieu le Père sera glorifié. Alors moi, je te donnerai tout ce que vous demanderez en mon nom. Mais tout ce que vous demanderez en mon nom sera obtenu. À ce moment-là, Dieu le Père sera servi et glorifié. Mais moi, j'agirai, je travaillerai en votre faveur. Jean 14, 13. Quant au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Nous disons à Dieu le Père, donne-moi Jésus, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi. C'est ainsi que nous sommes dans une grande confusion. Et alors, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, c'est le Dieu de la Trinité, mais leur position est différente. Leur rôle est différent. Ils sont un, mais dont le rôle est différent. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui écoute nos prières. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour écouter nos prières. Seul Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu le Père écoute nos prières. C'est ça, ça son rôle. Il lève ses bras pour nous aider. Donc réveillez-vous. Même si vous haïssez, vous me haïssez, il ne faut pas que votre cœur soit fermé. Écoutez le sermon d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu le Père. Il est venu pour travailler. Et ce n'est pas la peine de dire au Saint-Esprit, aide-moi. Et nous devons nous adresser à Jésus-Christ si nous avons besoin d'une aide. Parce que Jésus a été envoyé par Dieu le Père pour nous aider. C'est lui qui est la clé du royaume des cieux. Alors Jésus a dit à ses disciples, « Qu'est-ce que vous dites qui je suis ?» Alors son disciple lui a dit, « Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. » À ce moment-là, Jésus lui a dit, « Béni, heureux, Jonas, alors je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Alors je te donne les clés du royaume des cieux. Si vous ouvrez avec ces clés, la porte sera ouverte. Et si vous fermez, la porte céleste sera fermée. C'est ce qui est dans Matthieu, chapitre 16. Il faut que nous agissions selon la Bible. Le Christ est la clé qui a été envoyée par Dieu le Père. Il faut que nous demandions à Jésus de nous aider. Est-ce que vous dépendez vraiment de lui? Est-ce que vous avez la clé du royaume des cieux? Quant au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est celui à qui nous devons obéir. C'est pourquoi il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, tous ceux qui lui obéissent, sont sous l'opération du Saint-Esprit. Le vent souffle, mais on ne connaît pas son origine et sa destination. Alors, il s'agit de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Lorsque le vent souffle, des feuilles d'un arbre tombent. C'est ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Mais on ne peut pas voir le vent qui fait bouger l'arbre. C'est de la même manière. Les hommes du Saint-Esprit ne peuvent pas voir le Saint-Esprit, mais ils obéissent au Saint-Esprit. C'est pourquoi ils bougent selon le Saint-Esprit. Alors, par exemple, je rends le culte par le Saint-Esprit. Alors, même si vous avez un certain mécontentement, même si je suis limité parce que je suis un homme, je voudrais transcender mes limites et je voudrais servir Dieu le Père par le Saint-Esprit pour transcender mes limites. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, il faut prier par le Saint-Esprit. Alors, vous appelez Dieu le Père, parfois vous appelez Jésus, mais lorsque nous prions, il faut que nous obéissions au Saint-Esprit pour pouvoir prier par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui vient à nos faiblesses et il prie en notre faveur avec des soupirs inexprimables. Donc, lorsque nous prions, il faut que nous lui obéissions. Et lorsque nous faisons le travail bénévole à l'Église, il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Alors, certains disent, alors là, je dois faire le travail bénévole. Mais on se mécontent des autres bénévoles parce qu'ils ne viennent pas travailler à l'église de manière ardente. Mais si vous ne voulez pas servir Dieu avec joie, arrêtez-vous de le faire. Il est dit dans Ésaïe, je ne peux pas supporter ceux qui me servent en ayant des péchés. Et ne pas servir Dieu, c'est ça le péché. Alors, je ne peux pas supporter ceux qui me servent tout en étant dans le péché. C'est pourquoi quiconque veut servir Dieu le Père peut être servi, peut être béni. Alors, les gens de l'Ancien Testament qui n'ont pas pu recevoir le Saint-Esprit ont été bénis lorsqu'ils ont bien servi Dieu le Père. Ils ont été aimés de lui parce qu'ils l'ont bien servi. Les chrétiens d'aujourd'hui, eux, en fait, ils sont appelés chrétiens, mais ils ne servent pas Dieu le Père. À ce moment-là, ils ne peuvent rien obtenir. Il faut que nous obéissions au Saint-Esprit. Par exemple, nous avons obtenu telle ou telle charge à l'Église, et alors nous devons accomplir ces charges par le Saint-Esprit. Il faut que nous obéissions au Saint-Esprit lorsque nous accomplissons des charges confiées par l'Église. Il ne faut pas le faire avec des émotions humaines, il ne faut pas le faire en ayant un certain mécontentement. Il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit en exprimant nos émotions humaines lorsque nous travaillons bénévolement à l'Église. Il ne faut pas que l'action du Saint-Esprit et nos émotions humaines s'affrontent. Et si vous avez décidé de travailler à l'Église bénévolement, mais vous êtes seul, les autres ne sont pas encore venus. Et alors, vous avez été guidé par le Saint-Esprit, c'est pourquoi vous êtes venu à l'heure pour servir Dieu à l'Église. Alors, il faut que vous le fassiez tout simplement, il faut que vous fassiez votre part, sans penser à la responsabilité des autres, parce que ça fait partie de l'émotion humaine. Si vous êtes attaché à ce genre d'émotion humaine, vous éteignez le Saint-Esprit. Mais nous devons obéir tout simplement au Saint-Esprit. Il ne faut pas l'éteindre avec nos émotions humaines. Donc, il faut que nous fassions, menions la vie de la foi par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, il est dit, en ce qui concerne les choses spirituelles, il faut que vous soyez bien au courant des choses spirituelles. Alors, qu'est-ce que la spiritualité? Alors, qui est l'homme spirituel? Lorsque vous étiez païen, vous avez été laissé emporter par les idoles. Par exemple, lorsque vous étiez non-chrétien, vous avez donné les offrandes à vos ancêtres morts et alors vous avez nettoyé les assiettes, et, etc. pour donner les offrandes à vos ancêtres morts. Alors, vous avez lavé votre corps avant de préparer les plats qui doivent être offerts à vos ancêtres morts. C'est ainsi que vous avez fait tout votre possible pour mieux servir vos ancêtres. C'est ainsi que vous vous laissez emporter par les idoles lorsque vous avez été païen et vous vous êtes prosterné devant ces idoles. Et voilà, c'est ainsi que vous avez été ainsi dominé par les idoles. Il est dit dans le troisième verset, si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit, on ne peut pas l'appeler Seigneur. On ne peut pas appeler Jésus Seigneur. Si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on ne peut pas le servir correctement, on ne peut pas servir Dieu le Père correctement et on ne peut pas reconnaître Jésus. On ne peut pas donc appeler Jésus Seigneur. Donc il faut que nous comportions seulement par le Saint-Esprit. Et être pieux, c'est obéir au Saint-Esprit. Lorsque nous avons été païens, nous nous laissions emporter par les idoles. Et à ce moment-là, nous avons été vraiment pieux au niveau de la forme. Par exemple, lorsque nous sommes allés au temple bouddhique, et nous avons été vraiment dignes et pieux, parce que nous nous sommes laissés emporter par les idoles. Et alors, nous avons donc ainsi adopté une telle attitude, mais nous nous sommes convertis. Alors maintenant, nous devons servir Dieu par le Saint-Esprit et nous devons dépendre de Jésus par le Saint-Esprit. Hein. Mais nous ne le faisons pas. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la Bible, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup d'opérations, mais il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, il y a beaucoup de dons, mais il y a un seul Esprit. Le don est semblable à la grâce.
은혜는 그냥 우리가 받기만 할 수 있지만 은사는
Il suffit de recevoir la grâce, mais concernant le don du Saint-Esprit, il faut nous le révélions à l'extérieur. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, concernant la manifestation du Saint-Esprit, il se fait pour l'utilité commune. Certains reçoivent le don de la sagesse par le Saint-Esprit. Certains autres reçoivent le don de la connaissance de la parole par le Saint-Esprit. Certains autres reçoivent la foi par le Saint-Esprit. Alors, certains reçoivent la puissance par le Saint-Esprit. Certains obtiennent le discernement des esprits par le Saint-Esprit. Alors, certains reçoivent le don de la guérison par le Saint-Esprit. Certains reçoivent le don de la prophétie par le Saint-Esprit. Et certains parlent en langue par le Saint-Esprit. Et certains autres peuvent interpréter les langues par le Saint-Esprit. C'est ainsi que le Saint-Esprit se manifeste et on y obéit. C'est pourquoi donc vous parlez en langue parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est ainsi que vos esprits s'adressent à Dieu le Père pour leur faire part de leurs secrets. C'est ainsi que vos esprits prient, mais il faut qu'on le fasse par le Saint-Esprit. Moi, je demande toujours à Seigneur Jésus de me donner la sagesse du pastorat parce que je ne suis pas sorti d'une bonne université. Je n'ai pas été bien éduqué. Je ne suis pas quelqu'un d'intelligent. Je suis quelqu'un d'ordinaire. Je n'ai rien à me glorifier. Je n'ai rien à me vanter. Mais après avoir reçu la promesse de Dieu, et je demande au Saint-Esprit de me donner la sagesse du pastorat. Donc, lorsque je prêche, lorsque je mène le pastorat, lorsque je travaille pour les œuvres de Dieu, je demande au Saint-Esprit de me donner sa sagesse. C'est pourquoi, avant de construire ce temple, j'ai prêché 9 fois le dimanche. C'est moi qui présidais le culte, alors c'est moi qui prêchais. Alors, si on inclut le culte du soir, j'ai prêché même 10 fois le dimanche. Il est même difficile de diriger une seule église. Alors j'ai entendu dire que le PDG d'une entreprise reçoit 8 milliards de won comme salaire annuel. Et alors, si on inclut les primes, il reçoit 10 milliards de won. C'est parce qu'il utilise vraiment sa sagesse pour son entreprise. Et cette entreprise est énorme et très grande. Donc, il y a une grande différence entre celui qui gère une grande entreprise et celui qui gère une petite. Alors, il y a une grande différence entre celui qui dirige des dizaines d'églises et celui qui gère une petite église. Il y a une grande différence entre les deux. Moi, je peux mener un tel pastorat parce que je demande à Dieu de me donner sa sagesse. En fait, l'Église doit payer beaucoup d'intérêts à la banque. Et en fait, voilà, on verse environ des milliards de won à la banque. Et c'est pourquoi certains critiquent cette situation. Lorsque Jésus a parlé de talent de parabole, et il y a quelqu'un qui a reçu un seul talent, il a enterré ce talent sur la terre. Alors, cette personne a dit, alors je l'ai caché et je t'ai rapporté ce talent, mais il a été reproché par Jésus. Alors, Jésus lui a dit, serviteur inutile et mauvais, elle dit, tu devais déposer cet argent-là à la banque pour que pour amplifier cet argent, celui qui a reçu tout talent et a laissé d'autres talents, il a été félicité. Et celui qui a reçu 5 talents a laissé alors 5 autres talents. Alors c'est pourquoi il a été énormément félicité de son maître. Alors je te confierai tout ce que j'ai. Et alors, c'est ainsi que j'ai demandé à Dieu de me donner l'inspiration. Et j'ai mené le pastorat avec la sagesse du Saint-Esprit. Je n'avais pas d'argent, mais j'ai promis à celui qui possédait du terrain de lui rendre le prix de ce terrain. Et je lui ai demandé de me prêter son argent pour pouvoir acquérir ce terrain. Alors, ce possesseur du terrain m'a prêté son argent pour que je puisse acheter son terrain parce qu'il a reconnu mon intelligence. Alors, je peux donc acheter de grands terrains si je peux payer les intérêts. Si je n'ai pas d'argent pour le versement des intérêts, alors j'aurai besoin donc d'une petite somme d'argent pour le versement des intérêts. Moi, alors là, avec petites choses, j'ai obtenu de grandes choses. Alors, celui qui a additionné a été félicité par Jésus. Et alors, celui qui a... appliquer la méthode de la multiplication a pu recevoir ce qui appartient à son maître. Alors moi, donc, j'ai appliqué la méthode de la multiplication, non pas celle de l'addition. Donc il faut que nous soyons secourus par le Saint-Esprit. Même si je n'ai pas de connaissances, je suis aidé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai la parole et j'ai la puissance par le Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de dons du Saint-Esprit, mais pourquoi vous ne demandez pas de vous donner ces dons du Saint-Esprit? Pourquoi vous ne dépendez pas des dons du Saint-Esprit? Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il est dans la Bible, celui qui croit en moi pour avoir le fleuve de vie couler de son sein. La mer de Galilée est très profonde, mais elle ne pourrisse pas. Mais il y a la mer morte, alors les eaux entrent, mais elles ne sortent pas. C'est pourquoi cette mer est appelée mer morte. Donc, rien ne peut pas y vivre, mais Jésus a parlé de la mer de Galilée. Si vous croyez en moi, les fleuves d'eau vive couleront de votre sein pour l'éternité. Alors, en fait, les eaux ne pourrissent pas et couleront pour l'éternité. Alors, vous avez reçu des dons du Saint-Esprit, vous parlez en langue, mais vous les laissez dans une vase. C'est pourquoi ces dons pourrissent et vous ne pouvez plus recevoir les dons du Saint-Esprit. Alors, si vous avez reçu des dons du Saint-Esprit, vous devez les faire couler. Pour que ces dons du Saint-Esprit, ces dons s'enflifient, il faut faire couler ces dons que vous avez reçus. Si les eaux entrent dans la mer de Galilée, il faut que ces eaux coulent pour entrer dans une autre mer. Lorsque nous avons rendu 9 cultes le dimanche, Et un jour, j'ai baptisé même 600 personnes en un seul jour. Si les fleuves d'eau vive coulent, et il peut y avoir beaucoup d'âmes évangélisées. Mais il y a, vous avancez des prétextes pour ne pas obéir au Saint-Esprit. Alors vous dites, Alpha, parce qu'on me traite comme une hérésie, alors je ne peux pas travailler par le Saint-Esprit. À ce moment-là, le fleuve de Dieu ne peut pas couler de votre sein avant la résurrection de Jésus. Personne n'a reçu le Saint-Esprit. Pour que les fleuves de vie coulent de notre sein, il faut que nous recevions le Saint-Esprit. Jésus a versé son sang, il a été mort, il a été ressuscité, il est monté dans les cieux. À partir de ce moment-là, on peut recevoir le Saint-Esprit et on peut expérimenter l'opération du Saint-Esprit. Les fleuves de vie coulent de notre sein parce que Jésus a beaucoup souffert, même en versant son sang. Il a connu une souffrance énorme pour que nous puissions voir les fleuves de vie couler de notre sein. Mais nous sommes vraiment endurcis, notre cœur est vraiment endurci. Nous voulons mener notre vie de la face selon notre propre volonté et en disant, alors c'est ça la méthode correcte. Mais c'est ainsi que vous êtes dans l'erreur. Il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Il faut que nous agissions selon les indications de Jésus. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Lorsque j'ai reçu la grâce au début, et je n'ai pas reçu tous les dons du Saint-Esprit. Au début, j'ai parlé en langue par le Saint-Esprit, et ensuite, j'ai commencé à voir des visions, et j'ai commencé à discerner les esprits, et ensuite, j'ai pu avoir la sagesse. 5 ans ou 6 ans après, c'est ainsi que j'ai commencé à manifester progressivement les dons du Saint-Esprit reçus. Alors, je ne me suis pas arrêté de manifester les dons du Saint-Esprit. J'ai continuellement obéi au Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai pu manifester des dons du Saint-Esprit. Mais bien aimé, il faut que les fleuves de vie coulent de votre sein. Et il faut donc, vous devez demander à Jésus de vous donner les dons du Saint-Esprit et il faut les utiliser, il faut les appliquer dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre famille pour que vous puissiez manifester votre statut de serviteur de Dieu. Levez-vous. Il ne suffit pas de dire. Il ne faut pas qu'on nous applique à critiquer les autres. Il faut que les fleuves de vie coulent de notre sein sous l'action du Saint-Esprit. Il faut donc obéir au Saint-Esprit. Levez vos bras. Seigneur, aide-moi. Aide-moi que je devienne homme du Saint-Esprit. Que je devienne homme du Saint-Esprit, que je devienne homme du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, aide-moi. Fessez vos bras, priez à Dieu pour que vous deveniez homme du Saint-Esprit. Priez pour que les fleuves de vie coulent de votre sein. Prions pour que les fleuves de vie coulent de votre sein. Priez.
Hananima,
성령의 사람이 되도록 도와주시옵소서. 도와주시옵소서. 여러분, 여러분이 이렇게 되기 위해서 마음의 미움부터 없애시기 바랍니다.
Débarrassez-vous de la haine qui est dans votre cœur. Jésus-Christ, avec son sang, pour ceux qui l'aiment. Alors, vous croyez en Jésus, donc débarrassez-vous de la haine. Priez pour que vous soyez débarrassés de la haine. Prions.
Salinan 마음이 없게 하여 주옵소서. 가인 같은 마음이 없게 하여 주옵소서.